l'organizzatore all'organizzatrice e all'organizzatore che lessero nell'organizzazione se vous voulez sur projet. Donc je rentre tout de suite dans la matière parce que j'ai peur d'en avoir un peu trop. En m'excusant d'abord, ce qui fait que sur quelques points, surtout au début, mon propos retournera des choses qui ont déjà été dites, parce que c'est la force. Avant tout, je crois qu'il faut s'étonner de l'apparition tardive de l'esquisse d'une phénoménologie du droit, en 1981, 13 ans après la mort de Baudelaire. Pourquoi la Baudelaire n'a-t-il pas publié lui-même ce volumineux manuscrit? En effet, hormis le caractère lacunaire de l'appareil de notes, ce texte semble quasiment prêt à être publié, quoi qu'il se présente, dans son titre comme un exposé provisoire. Bien entendu, cette non-publication peut s'expliquer par la tendance irrépressible de Cogez à la procrastination et par le peu de temps libre dont dispose à partir de 1945 le philosophe du dimanche, comme on l'a très justement appelé. Mais elle a peut-être des raisons plus fondamentales. J'en entrevois deux. La première est la relative imprécision des considérations sur l'état universel et homogène, à propos duquel Cogez est à peu près aussi évasif que Marx à propos du communisme. Si le manuscrit se montre précis en ce qui concerne le droit aristocratique et le droit bourgeois, il est peu disait à propos de leur future synthèse, le droit absolu du citoyen de l'État universel et homogène, advenant à la fin de l'histoire. On ne peut indiquer, nous dit-il, que le sens général de l'évolution qui y conduira, puisque, ajoute-t-il, elle n'est pas encore achevée. Une seconde raison pourrait être que l'intérêt que Cogez s'est porté après-guerre vers des questions plus spéculatives, comme celles dont traite le concept, le temps et le discours, la figure du sage et l'établissement des conditions de son avènement, sujet qui croise la réflexion sur la fin de l'histoire, sont désormais au centre de sa réflexion. Certes, l'intérêt que Cogez pour la philosophie pratique n'a jamais cessé, comme le montre aussi bien son dialogue avec Leo Strauss que la correspondance avec Carl Schmitt, mais il est désormais, après-guerre, subordonné à des considérations, à des préoccupations métaphysiques. En tout cas, les raisons de la non-publication des esquisses demeurent assez mystérieuses, comme le reste de l'œuvre cogélienne au demeurant. Avant d'en venir aux autres motifs d'étonnement que suscite chez moi cette écrit massif, je vais d'abord rappeler rapidement, et là je vais recouper précédemment disposé, le concept du droit autour duquel le livre s'organise. On trouve dès le début du premier chapitre cette définition du droit. Je rappelle, l'essence du droit se réalise et se manifeste dans et par l'interaction entre deux êtres humains A et B, qui provoque nécessairement l'intervention d'un tiers impartial et désintéressé, C. Cette définition souligne le caractère fondamental de toute situation juridique, ça c'était le thème du premier exposé que nous avons entendu ce matin, l'intervention d'un tiers, arbitre ou juge, qui tranchera entre les revendications concurrentes de deux personnes qui ne sont pas nécessairement des personnes physiques. Elle entraîne, cette définition, une révision de certains concepts fondamentaux, comme par exemple celui de propriété. La propriété de la chose petit a par la personne grand A n'est pas un rapport exclusif entre la personne et la chose qui est domine, c'est un rapport de grand A à toutes les personnes, B, C, etc., possibles, excluant celle-ci de la propriété de petit a. Autrement dit, un concept juridique n'est pas seulement le concept d'un rapport duel, il suppose une relation triangulaire, et même quadrangulaire si on inclut la chose. Chez Cogez, cette conception trouve un fondement ontologique, ou un fondement dans une sorte d'ontologie sociale. Il n'y a rapport de droit que s'il y a interaction sociale. Conséquence immédiate, il ne peut y avoir de droit naturel, car l'existence d'une situation juridique présuppose celle d'une situation sociale. Donc, une société. Reste à se demander une fois écartés les grands récits plus naturalistes, pourquoi et comment les humains sont des êtres vivants en société et ce que cela implique. Je vais y revenir. Mais auparavant, je voudrais évoquer une conséquence de la définition triangulaire du droit, qui est la restriction importante de son extension. Et là, malheureusement, je vais croiser des choses que j'ai écrites. Si pour qu'il y ait droit, il faut qu'il puisse y avoir un tiers apte à trancher les différends, alors le droit international public n'est pas vraiment du droit, puisqu'il concerne les rapports entre États, et qu'entre eux, comme disait Hegel, il n'y a pas de traité. Cogel en conclut que le droit international est un droit international public, est un droit en puissance, et qu'il ne peut devenir effectif qu'en devenant le droit interne d'un État fédéral. Bon. Certes, il existe bien un droit international privé, mais il fait en réalité partie du droit interne, puisque ce sont les juridictions nationales qui le prennent en charge. Bref, existe le droit international. De son côté, le droit public interne rencontre un double obstacle, à savoir la stricte démarcation entre droit politique, sur laquelle je vais revenir, et là aussi l'absence de tiers. Premier point, la Constitution, pour autant qu'elle formule les principes d'organisation de l'État, ne relève pas du droit. Sa nature est purement politique. C'est en quelque sorte une déclaration politique d'intention. Voici ce que je suis, moi, État. Mais, outre l'organisation de l'État, le droit public concerne aussi les rapports entre l'État et les citoyens. Ces rapports, c'est-à-dire les divers aspects de la relation gouvernant-gouverné, sont en eux-mêmes politiques. Ils ne relèvent donc pas du droit. Deuxième point, entre l'État et ses membres, il ne peut y avoir de tiers, donc de rapport juridique. Si les citoyens sont insatisfaits de leur relation avec l'État, ils peuvent la modifier par des voies légales, élection, ou illégale, révolution. Mais dans tous les cas, cette action est politique et non juridique. Qu'en est-il maintenant plus précisément des deux branches du droit public interne, le droit constitutionnel et deux grandes branches, le droit constitutionnel et le droit administratif? S'il y a un droit constitutionnel, il ne peut concerner que les cas où les gouvernants, certaines instances gouvernantes, enfreignent les principes politiques auxquels ils doivent exister. La juridiction constitutionnelle, quelle que soit son organisation institutionnelle, évaluera donc les actes des gouvernants, par exemple du législateur, et non la loi constitutionnelle elle-même, qui n'a pas un caractère juridique. Pour ce qui est du droit administratif, il intervient lorsque les citoyens sont mécontents de la manière dont les agents de l'État leur appliquent ces lois, les lois de l'État, qui sont les lois politiques, ce qui crée une situation juridique au sens du code. En effet, l'agent public, individu ou administration qui n'agit pas conformément aux normes dont il est l'instrument et là, j'ai manifestement un certain plaisir à employer cette expression, un imposteur. Il ne promeut pas l'intérêt de l'État dont la définition politique est juridiquement inattaquable puisqu'elle est politique, mais le sien propre. Dès lors, le conflit entre lui et l'administré est un conflit entre particuliers dans lequel l'État en tant que tel peut intervenir en qualité de juge via tel ou tel organe, conseil d'État par exemple. Le droit de juridiction administrative. Le droit administratif, contrairement à ce que la doctrine prétend, ne concerne pas les litiges entre l'État et ses administrés, mais les différends entre ces derniers et les agents publics trahissant la mission qui leur est attribuée. Ce que vous voulez, chers collègues juristes, de cette interprétation libre. Au total, le droit public, après le droit international, est réduit à la portion commune. Donc on peut dire que pour Cogel, le vrai droit, c'est le droit privé. Et l'extension du premier, le droit public, est fort restreinte en raison du refus de toute juridicisation du politique. Ce qui subsiste du droit public concerne les litiges entre des justiciables et des individus ou groupes sociaux, agents administratifs, membres d'un corps législatif par exemple, qui se méprennent sur l'intérêt politique de l'État ou le trahissent. Mais provoquée par celle de situation sociale. D'où vient-il? Et là, on approche la question fondamentale. Il y a société et donc droit. La réponse à cette question réside dans la théorie de l'acte anthropogène, élaborée lors des séminaires sur la phénoménologie de l'esprit, au moyen d'une interprétation de ce que Cogère baptise la dialectique du maître et de l'esclave. Elle trouve ici une expression innovante, quoiqu'elle se présente comme une simple application de Hegel. Toujours se méfier des déclarations modestes de Cogère. En général, elle cache une extrême revendication d'originalité. Je vais revenir sur l'hégélianisme revendiqué par Cogère, mais intéressons-nous d'abord à sa conception du droit. Sa thèse est que l'acte anthropogène primordial, c'est-à-dire la lutte symbolique pour la reconnaissance et ses conséquences immédiates, d'abord, c'est-à-dire la subordination de l'esclave au maître, immédiate ensuite, l'acculturation laborieuse de l'esclave, dont va résulter un renversement progressif de la situation initiale, eh bien, l'acte anthropogène primordial implique, je cite Cogère, un élément juridique. La juridicité des rapports sociaux est donc à la fois le résultat et l'aufhebung de la conflictualité originaire du commerce humain. Conflictualité féconde, puisque c'est elle qui hominise l'animal homo sapiens et qui donc institue une société. Mais une fois l'ordre social et l'ordre du droit instaurés, sous les deux figures antagoniques que sont le droit aristocratique et le droit bourgeois, tout ce qui ne peut être réglé par l'intervention, par la médiation d'un tiers, doit être exclu du domaine du droit. La conflictualité est donc à la fois l'origine et le dehors du droit. Non que le conflit soit absent de la société, bien au contraire, mais il relève, le conflit en tant que tel, de cette dimension politique. Au demeurant, la violence originaire dont, comme la société, le droit est issu, subsiste à l'arrière-plan, sous la forme de l'antagonisme des deux visions aristocratiques et bourgeoises du droit. Alors, hormis la contrainte textuelle que représente la référence à la lutte pour la reconnaissance hegélienne, on ne peut pas dire absolument n'importe quoi à partir du moment où il prétend se réclamer d'un texte qui a son existence, on peut se demander pourquoi la théorie hegélienne du droit, dans sa double dimension historique et systématique, est construite à partir de cette polarité, alors que Cogère considère lui-même qu'il s'agit de types idéaux ou purs qui n'ont jamais connu de réalisation concrète. Le droit historiquement réel est toujours un mixte d'éléments aristocratiques et bourgeois. À cette question, pourquoi ce couple et ces deux modèles antagonistes, j'entrevois une double réponse. Tout d'abord, la dialectique du droit aristocratique et du droit bourgeois a pour horizon leur commun dépassement par la synthèse et le droit du citoyen, tel qu'il trouvera sa forme accomplie dans l'État universel et européen. À vrai dire, le droit aristocratique ne joue dans ce processus qu'un rôle de vestibule. Cogère le dit de façon imagée, le maître n'apparaît dans l'histoire que pour disparaître. Il n'est là que pour qu'il y ait un esclave. Mais alors, pourquoi donner en place au droit aristocratique? Sans doute pour rappeler, et c'est le deuxième élément de la réponse, le caractère originellement conflictuel, violent, de l'espace social. Le droit est la réaction sociale à la situation de pure violence, la lutte à mort, qui donne naissance à la socialité. Le droit véritable est le droit bourgeois qui épouse la vision, je cite Cogère, d'un esclave sans maître ou, ce qui est la même chose, d'un maître sans esclave. Il est requis de conserver la mémoire de cette origine, même si elle est imaginaire, pour rendre compte des aspects contradictoires que comporte le droit dans son évolution. Donc c'est la dynamique contradictoire de l'évolution historique du droit dont Cogère cherche à rendre compte à travers ces deux modèles idéaux que sont le droit aristocratique, ces deux types idéaux que sont le droit aristocratique et le droit bourgeois. Le droit, selon Gogel, résulte historiquement d'une tension entre l'égalité aristocratique et l'équivalence bourgeoise. On peut être surpris, Jean-Claude Monod y a fait allusion tout à l'heure, de voir l'égalité érigée au rang de valeur aristocratique, quand on s'attendait plutôt à l'avoir associée à la vision bourgeoise du droit qui refuse les inégalités statutaires. Mais c'est un concept politique de l'égalité qui est ici mobilisé. L'égalité aristocratique, c'est l'égalité des aristoïdes, et par conséquent, l'inégalité des inégaux. C'est de l'Aristote pur jus. Quant à l'équivalence, elle correspond au fait que dans la société bourgeoise et capitaliste, l'échange se présente fallacieusement, c'est selon Marx le cœur du fétichisme de la marchandise, comme un jeu à somme nulle. En principe, ce que je cède, l'usage de ma force de travail, équivaut en valeur à ce que je reçois, salaire. Sur ce point, il me semble que la lecture de Marx a été déterminante, ce qui ne fait pas de Gogel un marxiste, quoi qu'il lui soit arrivé de se définir comme un marxiste de droit. J'en viens au point suivant, le problème est Hegel. Hegel est fort peu présent, du moins en apparence, dans cette phénoménologie du droit, due à un auteur qui a prétendu non sans coquetterie que son travail était, je le cite, une simple paraphrase de l'œuvre hegelienne en français moderne. Là aussi, il faut se méfier de ce genre de propos de la part de Coquet. Son nom, le nom de Hegel, ou son œuvre, sont mentionnés seulement 8 fois, si je ne me trompe, dans cet écrit massif, de façon très abusive dans la plupart des cas. Bien que la thématique cogéco-hegelienne, si l'on veut, du désir anthropogène de reconnaissance, soit d'une certaine façon la colonne vertébrale de l'ouvrage. C'est le cas en particulier du chapitre 1 de la deuxième discussion, qui reprend les grandes lignes de l'étude de la dite dialectique du maître et de l'esclave dans les séminaires de haute étude, en en faisant la source des idées de justice et de droit. Du coup, cette analyse reçoit une signification bien plus parlante, à mon avis, que lorsqu'elle se donnait pour un simple commentaire de la phénoménologie des sciences. Mais ce qui est surprenant, c'est que aucune référence n'est faite au principe de la philosophie du droit dans cette brillante reconstruction de la jeunesse et de la double idée de justice comme égalité et comme équivalence et des deux conceptions aristocratiques et bourgeoises du droit qui en écoutent. Ainsi, lorsque Cogère affirme donner, je cite, un exposé de la théorie et des liens de la peine, il ne se réfère pas au paragraphe des Grundlinien traitant du droit pénal. Par exemple, il soutient contre toute vraisemblance que là où Hegel, je cite, que là où Hegel parle de peine et de droit pénal, en réalité, il a en vue le délit purement politique. C'est une citation. Or, il est impossible de soutenir cela à propos de l'analyse du crime et du châtiment dans les Grundlinien, qui concerne indubitablement le droit abstrait, privé, et non le droit public, étatique. Ça ne marche pas. En revanche, il a probablement à l'esprit, j'en suis certain même, un vrai passage du chapitre Force et entendement, chapitre 3 de la phénoménologie de l'esprit, où il est question, à titre d'exemple et en passant, de la mise à mort de l'ennemi, donc du châtiment d'un crime politique. Là, oui, ça colle, si je puis dire. Il s'agit bien d'un crime politique, d'un ennemi politique. Et ce n'est pas du tout de cela que parle la théorie de la peine dans les principes de la philosophie. Par ailleurs, le jugement selon lequel, faute de tiers reconnus, le droit international public n'est pas vraiment du droit, est assez proche, bien sûr, de ce que Hegel écrit dans les Grundlinien à propos du droit étatique externe, dont il considère qu'il relève du pur devoir-être. Mais Gogel n'en fait aucunement mention, alors même que l'analyse antinormativiste de Hegel va dans son sens. Troisième exemple, mais je pourrais en prendre d'autres. Il y a une phrase que Gogel cite à plusieurs reprises dans l'esquisse, aussi bien que dans l'introduction déjà. Cette phrase, c'est « l'être vrai de l'homme et son action ». J'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'une citation approximative, d'une formule remarquable des Grundtvigiens que je cite et que j'ai commenté souvent. Cette phrase est la suivante, ce qui est le sujet, c'est la série de ses actions. Mais en réalité, j'ai découvert, en cherchant beaucoup, qu'il s'agit d'une formule empruntée, mot pour mot cette fois-ci, à l'analyse de la raison observante dans la phénoménologie des sons. Là encore, il se réfère uniquement à la phénoménologie des sons. Bref, à la lecture de l'esquisse, on pourrait suspecter Colbert de ne pas connaître les principes de la philosophie du droit, les Grundtvigiens, ouvrage qui venait pourtant d'être traduit par André Kahn, traduction dont Colbert, du reste, n'avait absolument pas besoin, étant remarquable journaliste. Cette hypothèse irrespectueuse n'est pourtant pas à exclure factuellement. Si on se souvient que Colbert connaissait assez peu Hegel, lorsque Colbert lui confia la charge de donner à sa place un enseignement sur la phénoménologie de l'esprit, quelque sorte au début. Du reste, même dans les écrits ultérieurs, je n'ai pas souvenir que Colbert se soit référé explicitement au principe de la philosophie du droit. Mais évidemment, cette absence est particulièrement surprenante dans un ouvrage portant sur le droit et prétendant s'appuyer sur Hegel. Mais c'est celui de la phénoménologie de l'esprit, en fait. Mais on ne peut pas s'en tenir à une telle conjecture à tantinet policière. Tout d'abord, Colbert s'est suffisamment familiarisé avec le mode de pensée de Hegel, y compris lorsqu'il le déforme sciemment à ses propres fins, pour mettre, même sans le vouloir, ses pas dans les siens. Par exemple, lorsqu'il expose sa propre théorie de la paix, il s'oppose, comme Hegel, aux conceptions moralisantes et mélioristes du châtiment. Les adversaires de Hegel étaient Degaria et Anselm Feuerbach. Ceux de Colbert sont les théories de la défense sociale et de l'amendement moral du criminel. Comme Hegel, il s'en tient, Colbert, à une vision rétributiviste du châtiment, tout en distinguant soigneusement la peine et la vendetta. Colbert, lui aussi, entend distinguer rigoureusement le juridique et le moral et adopte une vision objective du châtiment en tant que rétablissement de l'égalité dans le cadre de la justice aristocratique ou de l'équivalence dans le cadre de la justice bourgeoise, l'une et l'autre mise à mal par l'acte criminel. Il y a dans l'analyse hegelienne du droit pénal une sorte d'égalitarisme infus, ce qui ne l'empêche pas de déformer le propos de Hegel lorsqu'il y fait référence. Et la convergence est patente, quoique probablement non intentionnelle. Colbert écrit par exemple que le criminel a droit à la peine, là où Hegel soutenait de son côté que la peine contient le propre droit du criminel qui, étant châtié, est honoré comme un être rationnel. Le grand paradoxe de la phénoménologie du droit de Colbert, la dénomination n'a pas été choisie au hasard, et qu'elle se fonde non pas sur la philosophie du droit de Hegel, mais sur une interprétation personnelle d'un passage de la phénoménologie de l'esprit, la soi-disant dialectique du maître esclave, ainsi que Colbert rebaptise le passage que Hegel avait intitulé Indépendance et dépendance de la conscience de soi, domination et servitude. Je n'entends pas réfuter une analyse qui a durablement orienté la lecture de Hegel dans l'espace francophone. C'est d'ailleurs inutile, puisque Colbert a lui-même reconnu qu'il avait utilisé Hegel comme porte-parole de sa propre pensée, raison pour laquelle il me semble, parfois en forme de boutade, que le livre publié en 1947 devrait plutôt s'intituler « Introduction à la lecture de Colbert ». Mais il convient de souligner la profondeur de la vision colbertienne de la constitution du droit dans une dialectique du droit aristocratique de l'égalité et du droit bourgeois de l'équivalence, ces deux conceptions, systématiques et cohérentes, étant appelées à fusionner synthétiquement dans le droit du citoyen, fondé sur une conception de la justice comme équité, lorsque la formation de l'État universel et homogène l'aura imposé. Tous ces motifs sont déjà présents ou en germe dans les séminaires sur la phénoménologie de l'esprit, mais c'est dans l'esquisse que se révèlent leur intention profonde et leur efficacité. Lorsqu'on confronte le propos des conférences sur Hegel et l'exposé par l'esquisse de la violation jointe de l'humanité, de l'idée de justice et de celle du droit, on est tenté de formuler une hypothèse un peu osée, ne serait-ce pas la conception préexistante de la double jeunesse idéale du droit qui aurait orienté, au moins de façon latente, la lecture collégienne de la lutte du maître et de l'esclave. Ok. La confrontation des deux textes me semble conférer à cette hypothèse une certaine plausibilité. Le texte de la phénoménologie de l'esprit a peut-être été le terrain d'expérimentation d'une conception cohérente et originale du droit de la société et de l'État, qui trouvera son expression systématique dans l'esprit. Dernier point à propos de Karajit. Le nom de Karajit est mentionné deux fois, dont une avec une orthographe incorrecte, dans l'esprit. Dans les deux cas, il est fait référence à la fameuse distinction ennemie qui est présente dans les réglages politiques comme le critère, qui est présenté comme le critère de politique. Selon toute apparence, un renvoi anodin à ce que tout un chacun connaît de Schmitt sans l'avoir forcément lu. Pourtant, l'empreinte de l'essai de Schmitt sur l'esquisse est profonde, puisque toute la conception du politique et partant la séparation stricte que fait Kojève entre droit et politique en sont issues. En effet, une société politique, dans les conditions modernes de l'État, se distingue d'autres types de sociétés par deux traits. Un, l'existence d'un rapport gouvernant-gouverné. Deux, la distinction entre ami et ennemi. Les deux notions n'ayant, comme chez Schmitt, qu'une signification rigoureusement politique. Ainsi, l'esquisse combinerait, je dirais, une conception hegelienne du droit et une conception schmittienne du politique. Les choses, pourtant, ne sont pas si simples. J'ai déjà suggéré précédemment que l'hegelianisme de Kojève est avant tout kojévien. Je voudrais insister maintenant sur la torsion en forme de radicalisation que Kojève fait subir au propos de Schmitt. Dans la notion de politique, Schmitt fait de la distinction à l'ennemi un simple critère conceptuel et non une définition de ce que serait l'essence du politique. Il affirme que la conception du politique qui expose son essai est purement descriptive, axiologiquement neutre. De fait, le politique n'est pas, contrairement à ce que suppose Kojève, un domaine spécifique. C'est un coefficient d'intensité des relations d'intérêt humain dont la définition de l'ennemi est le simple marqueur. Il semble donc que Kojève substantialise le concept de politique que Schmitt s'est forcé au contraire de désubstantialiser et de déterritorialiser. Par ailleurs, chez Schmitt, politique et droit sont loin de s'exclure. Son idée directrice est plutôt, comme l'indique la théorie de la Constitution, que toute construction juridique suppose un moment politique fondateur, la décision existentielle en faveur de tel type d'organisation de la société. L'esquisse développe au contraire une vision radicalement conflictualiste et politique, tout en soulignant sa non-juridicité fondamentale, deux points de divergence avec Schmitt. Donc, Kojève ne craint pas de soutenir, dans un texte écrit en 1943, que la politique s'organise selon une logique qui peut conduire à l'extermination. Pour le faire, en 1943, face. Schmitt n'aurait, je crois, jamais écrit cela. Schmitt souligne au contraire que dans une perspective strictement politique, lorsqu'elle n'est pas contaminée par des représentations morales ou religieuses, il ne s'agit pas d'anéantir, faire mise de l'ennemi, mais de le contenir, de le reconduire à l'intérieur de ses frontières. Ce sont des formules du concept de politique, de la notion politique. Cette radicalisation de la conception schmittienne du politique est en cohérence avec le choix de définir le juridique par l'existence d'un tiers au moins possible. La sphère politique, selon Kojève, ignore toute une mesure de l'interaction humaine fournie par le droit. Par conséquent, aussi longtemps qu'existeront des entités politiques, leur rapport ne saurait être que d'affrontements ouverts ou larvés, guerre chaude ou guerre froide. On peut certes abolir une forme d'organisation politique par une réforme ou par une révolution, c'est-à-dire une certaine configuration de la relation ennemie et du rapport au gouvernement gouverné, mais le politique est en tant que tel impossible à supprimer. Il est, je l'ai déjà inéluctable et indestructible, hormis ce passage à la limite qu'est l'état universel et homogène. D'où la séparation stricte chez Kogel de ces deux champs d'interaction que sont la politique et le droit. Conforme à la lecture usuelle de la notion de politique, dont elle endosse la thèse présumée, alors que d'ordinaire s'en indigne plutôt, c'est la grande différence entre la lecture kogelienne de Schmitt et la lecture usuelle, c'est pas celle de Derrida par exemple, conforme à la lecture usuelle de la notion de politique, la vision hyper-schmittienne du politique qui est celle de Kogel est le corrélat de sa conception triangulaire du droit. Mais elle explique aussi que c'est la restriction de l'espace dévolu au droit que nous avons pu observer dans l'esquisse. Elle illustre aussi la difficulté qu'il y a à être à la fois hégélien et schmittien, s'il est vrai, comme je me suis forcé jadis de le démontrer, que la pensée juridico-politique de Karl Schmitt est un miroir violemment déformant de Hegel, de celle de Hegel. À vouloir être l'un et l'autre, Kogel s'est exposé à le panache au risque de n'être ni l'un ni l'autre, mais il est côté bien, ce n'est pas si mal.